Les leçons de l'histoire internationale, la chronique animée par Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques, une chronique régulière que vous retrouverez 4 ou 5 fois dans l'année. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Quel thème avez-vous choisi pour cette deuxième chronique ?
Réconciliation ou mariage de raison, les rencontres de Gaulle-Adenauer.
Vous nous conduisez donc à l'époque où De Gaulle et Adenauer se sont trouvés en même temps aux affaires dans leurs pays respectifs.
Oui, les années 1958-1963, pendant lesquelles ils étaient tous les deux aux affaires, ont vu l'apparition progressive et puis l'institutionnalisation de rencontres régulières et fréquentes entre les plus hauts responsables français et allemands. On en a pris l'habitude de nos jours, mais en 1958, c'était totalement inusité et même difficile à imaginer, tant encore étaient proches dans les mémoires les guerres franco-allemandes, y compris la dernière, celle de 39-45, bien sûr. Rappelons d'autre part que ce système de sommets réguliers entre les plus hauts responsables des différents États a fait école par la suite et a fait naître un nouveau type de gestion des affaires internationales. Dans le cas franco-allemand, ces sommets ont marqué la réconciliation entre les deux pays et le début d'une coopération intime qui, malgré des hauts et des bas, n'a pas cessé jusqu'à maintenant.
Oui, mais en même temps, bien entendu, ces sommets ne pouvaient pas s'abstraire des intérêts souvent divergents des deux partenaires, ni de leur arrière-pensée.
Bien entendu, et en particulier De Gaulle est en position de supériorité. Et il sait admirablement en jouer, mais sans jamais y faire allusion lourdement. En effet, l'Allemagne, rappelons-le, à l'époque était divisée entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne était encore obérée par ses récents, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Elle était soumise en droit international à l'accord des 4 grands, américains, britanniques, français, soviétiques, pour ce qui concernait, selon le langage officiel de l'époque, la question de Berlin et de l'Allemagne dans son ensemble, c'est-à-dire, en clair, le problème d'une éventuelle, très éventuelle à l'époque, réunification. L'Allemagne n'avait pas le droit de posséder des armes nucléaires, alors que la France allait faire sauter sa première bombe atomique en 1960. Du côté d'Adenauer, tout son objectif est de se rapprocher de la France, sans rompre pourtant avec les autres partenaires de l'Europe des Six, ni avec Washington. En fait, pour Adenauer, le rapprochement avec Paris doit lui servir de réassurance en cas de lâchage, dirais-je, de la République fédérale d'Allemagne par les États-Unis. C'est en effet la grande crainte du chancelier, crainte dont De Gaulle joue d'ailleurs assez cyniquement, il faut le dire. Et en même temps, et dans les médias, il s'agit pour Adenauer de pousser, par le rapprochement avec la France, les Américains à mieux prendre en compte les intérêts de la RFA. Adenauer cherche donc à manœuvrer dans le triangle Bonn-Paris Washington, alors que De Gaulle cherche à le maintenir dans un axe Paris-Bonn.
Alors, quand la première rencontre a-t-elle eu lieu ?
La première rencontre a eu lieu le 14 septembre 1958 à Colombey. Je rappelle que De Gaulle est revenu au pouvoir au mois de juin, c'est donc tout récent. Et cette rencontre a lieu dans la maison de De Gaulle à la Boisserie. Car justement, le général a voulu donner un tour non protocolaire à la réunion, auquel Adenauer a été sensible. Il était reçu dans la demeure personnelle et familiale du général. Il s'agissait avant tout pour les deux hommes de faire connaissance, de se jauger, si vous voulez. Les entretiens portaient essentiellement sur des questions de philosophie, de conception du monde. Les deux hommes constatent qu'ils sont tous les deux fidèles aux valeurs de la culture européenne classique et de ce qu'on appelait à l'époque l'Occident chrétien. Et ce sera pour eux la base de la réconciliation entre les deux pays et du travail en commun, au chancelier allemand et au président français. Sur le plan politique, cependant, Adenauer arrive à Colombey inquiet. De Gaulle avait poursuivi en 1944-1945, quand il dirigeait le gouvernement provisoire, des objectifs très durs à l'égard de l'Allemagne, envisageant la perte par l'ancien Reich de la Rhénanie et de la Ruhr, et, disons-le, la division de ce qui resterait. Mais le général rassure tout de suite Adenauer. Maintenant, dit-il, la menace est soviétique et n'est plus allemande. Je rappelle qu'on se trouve de nouveau dans une période de tension Est-Ouest et que, deux mois plus tard, Khrouchtchev, dirigeant soviétique, lancera son fameux ultimatum sur Berlin-Ouest qui a lancé une très grave crise internationale pendant des années. Les deux hommes, Adenauer et De Gaulle, constatent que la politique américaine les inquiète pareillement. Parce qu'elle est à la fois trop prépotente vis-à-vis des Européens et en même temps trop encline à rechercher une détente avec Moscou, dont les Européens risqueraient de faire les frais. C'est pourquoi Adenauer accueille favorablement une suggestion encore vague de De Gaulle au mois de septembre 1958, en vue d'établir un contact politique organique, et je dis bien organique, pour citer De Gaulle, un contact à base franco-allemande, mais qui s'étendrait à l'ensemble des six de l'Europe, de la communauté économique européenne de l'époque. Et le but de cette politique organique, ce serait de définir une politique commune indépendante de celle des États-Unis.
D'accord, mais ce n'était qu'une prise de contact. Le charme opère-t-il entre les deux ?
Eh bien oui, le charme a opéré des deux côtés. Sur le plan personnel, les deux hommes se sont entendus. Ils partagent bien la même vision du monde. Ils sont bien de la même génération. Ce sont deux hommes qui ont connu la grande Europe d'avant la Première Guerre mondiale. Ils n'ont jamais oublié cet aspect. Et dans les mois suivants, la crise de Berlin va prendre de l'ampleur, tandis que la tendance de Washington à rechercher un accommodement avec Moscou va s'accroître. C'est pourquoi le grand sommet suivant, les deux hommes, en juillet 1960 à Rambouillet, va entrer dans le vif du sujet. Et c'est là, après les prises de contact préliminaires, que débute vraiment la coopération. Adenauer et De Gaulle tombent d'accord pour proposer aux quatre autres partenaires européens une union politique, compétente également dans les affaires de politique extérieure de défense, une union politique qui permettrait à l'Europe de parler dans le monde d'une seule voix et d'obtenir, c'est très important pour De Gaulle, un rééquilibrage de l'Alliance Atlantique.
Oui, cela conduira en 1961 l'élaboration du plan Fouché. Mais que prévoyait-il, ce plan Fouché ?
Le plan Fouché prévoyait la signature d'un traité sur les bases que je viens de définir. Le projet, d'ailleurs, n'était pas si différent de ce que sera en 1992 le traité de Maastricht. Quand on compare les différents articles, c'est très net. Et finalement, début 1962, ce projet qui prévoyait un système de rencontres très fréquentes et régulières entre les hauts responsables des six pays, ce projet, pourtant une fois de plus très avancé, va échouer, essentiellement parce que le général va au dernier moment aller trop loin dans sa volonté de remettre en cause par ce traité l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce qui était son arrière-pensée fondamentale, parce qu'il estimait que l'OTAN donnait trop de pouvoir aux Américains en Europe. Les autres partenaires, même Adenauer, qui sait bien qu'en dernière analyse, la sécurité de la République fédérale repose sur les États-Unis, les autres partenaires ne pouvaient pas suivre De Gaulle aussi loin dans la remise en cause du pacte atlantique.
On en arrive alors au dernier grand sommet, celui de juillet 62.
Oui, ce sommet de juillet 1962 est précédé par une revue franco-allemande, revue militaire franco-allemande au camp de Mourmelon, et par une messe dans la cathédrale de Reims. On est dans la suite de la construction du mur de Berlin en août 1961. Peu de temps avant le sommet, les Américains, dans ce climat de crise internationale aggravée, les Américains ont annoncé l'adoption d'une nouvelle stratégie nucléaire tenant compte des progrès atomiques et en matière de fusées balistiques réalisés par l'Union soviétique. Mais cette nouvelle stratégie américaine revenait à réduire, en fait, la portée de la garantie nucléaire américaine à l'Europe. On est donc là au comble des inquiétudes partagées par De Gaulle et Adenauer, devant ce qui pourrait être une nouvelle aggravation de la situation internationale et devant ce qui leur apparaissait comme des incertitudes américaines croissantes. Les deux hommes vont décider alors de reprendre le plan Fouché, celui de 1961-62, mais maintenant à deux, ce qui aboutira au traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Ce traité mettait en place un système de consultation régulière entre les responsables des deux pays et comportait en particulier un volet stratégique et militaire important. Ce traité, comme on le sait, est toujours valable aujourd'hui. Il a bien entendu été régulièrement perfectionné depuis 1963 et il constitue le sommet de la construction politique que poursuivaient De Gaulle et Adenauer. Représentons-nous ce que le traité franco-allemand de l'Élysée représentait à l'époque, moins de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
En effet, mais Adenauer est obligé rapidement, pour des raisons de politique intérieure, d'abandonner le pouvoir en octobre 1963.
Et oui, et le personnel politique allemand trouve, c'est l'une des raisons d'ailleurs de son départ un peu plus rapide que prévu initialement, le personnel politique allemand trouve qu'il est allé trop loin, dans le sens de De Gaulle. Le Bundestag, le Parlement allemand, va ratifier certes le traité de l'Élysée, mais il va le faire précéder d'un préambule unilatéral rappelant la fidélité de la République fédérale à l'Alliance Atlantique, ce qui évidemment contredisait la philosophie profonde du récent traité. Parlant du traité, De Gaulle, désabusé, va dire très vite « Il a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin ». Et de fait, le traité n'eut jamais tout le développement escompté au départ.
Et De Gaulle et Adenauer se reverront-ils après le départ de la scène politique de l'ancien chancelier de la RFA en octobre 63? Se reverront-ils?
Eh bien, De Gaulle va revoir Adenauer en novembre 1964 à l'occasion de la réception de l'ancien chancelier à l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques. Et à l'instar, si j'ose dire, d'une maîtresse éconduite, De Gaulle va rappeler à Adenauer les délices auxquels la République fédérale avait ainsi renoncé en n'appliquant pas vraiment le traité de l'Élysée. En particulier, l'établissement d'une véritable communauté politique et stratégique franco-allemande par laquelle l'Allemagne aurait même pu accéder, laisse entendre De Gaulle, aux armes nucléaires. Ce dernier point, c'était le dernier épisode d'une véritable danse du voile à laquelle De Gaulle s'était livré depuis le début de ses contacts avec les Allemands, qui était très désireux d'accéder à l'arme nucléaire, mais il est très très peu probable que De Gaulle l'ait envisagé sérieusement. Ce qu'il voulait dire, c'est que dans une union étroite franco-allemande, par la force des choses, l'Allemagne aurait bénéficié de la dissuasion nucléaire exercée par l'armement nucléaire français.
Donc, Georges-Henri Soutou, que peut-on retenir de ces sommets de Gaulle-Adenauer?
Eh bien, ils ont implanté la mécanique des consultations permanentes entre les deux pays, et en dehors de ça, qui peut paraître technique, mais qui a subsisté, s'est développé jusqu'à nos jours, je dirais que ces sommets De Gaulle-Adenauer, par-dessus tout, ont enclenché dans l'opinion publique des deux pays le processus de la véritable réconciliation, qui ne s'était pas enclenché jusque-là.
Merci monsieur, et à bientôt pour d'autres leçons de l'histoire internationale.
Merci madame, à bientôt.